Bonjour, bonjour, vous écoutez The Journal.
Avec moi Mathilde au micro,
moi Chloé et Anna la technique.
On se retrouve tout de suite pour notre sommaire.
Au sommaire,
les 100 ans de l'Institut français de Barcelone,
Monsieur Bastianelli interviewé pour les Palmes académiques,
des élèves interviewés pour la 4e conférence du Palmoon,
et enfin, une petite entrevue sur Noël au LFB.
Le 25 novembre, l'Institut français de Barcelone a fêté ses 100 ans.
À cette occasion, nous avons rencontré M. Vasseur et M. Talon. Voici au micro M. Max Vasseur, directeur de l'Institut à Barcelone.
Bonjour.
Quelle est la mission de l'Institut français à Barcelone ?
Alors, la mission de l'Institut français à Barcelone, elle est variable, elle est multiple. Elle a d'abord pour objectif de diffuser la langue française, non seulement à Barcelone, mais ici en Catalogne. Vous savez que l'Institut français appartient à un réseau de 6 instituts français en Espagne. Et donc, notre action se délimite sur le territoire catalan. Et notre objectif premier, c'est de diffuser la langue française sur ce territoire-là, en offrant aux Barcelonais, aux Catalans, la possibilité d'apprendre le français parmi nous. On a pour ça 28 profs de français, uniquement du français, qui travaillent avec nous. Ça, c'est pour la partie linguistique. Puis, on a une énorme action sur la partie coopération culturelle. La coopération culturelle, qu'est-ce que c'est ? C'est faire la promotion de la culture française à Barcelone. Donc, on fait venir pour ça des artistes français ou francophone ici à Barcelone. Et puis, on essaye d'établir des liens, d'établir des ponts entre des artistes catalans et des artistes français pour qu'il y ait des projets qui puissent naître et des choses qui puissent se mettre en place progressivement.
Et vous, quel est votre rôle dans cette mission ?
Je suis directeur délégué de l'Institut français de Barcelone et comme son nom l'indique, je dirige un petit peu ce gros bateau et j'essaye de faire en sorte que les choses se passent au mieux, de mettre un petit peu en musique, un petit peu en harmonie tout ça, de faire en sorte que les choses puissent fonctionner de manière assez fluide, que les liens s'établissent également entre la partie linguistique, la partie des cours et la partie coopération culturelle pour faire comprendre notamment à nos élèves, aux élèves qui s'inscrivent ici, qui sont inscrits non pas dans une école de langue classique où on apprend le français de manière assez on va dire formelle, mais qui s'inscrivent dans un écosystème où à la fois on mêle l'apprentissage de la grammaire, de l'orthographe, mais aussi la découverte d'un champ culturel. Donc mon rôle au milieu de tout ça, c'est de tisser du lien, de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde, pour nos élèves, pour notre public, pour nos personnels également. Et puis, ben voilà, je suis responsable du budget, je suis responsable de la maintenance de ce superbe bâtiment, etc. Et puis, j'ai une énorme mission qui consiste à faire du partenariat, à créer du lien avec plein d'institutions ici à Barcelone. On travaille avec énormément de centres culturels, avec énormément de festivals. Je suis un peu un représentant de la culture et de la langue française et donc je vais avec mon sac à dos rencontrer les gens et leur présenter des projets, leur faire des propositions ou écouter parfois leurs propositions pour pouvoir y répondre favorablement et faire en sorte qu'il y ait des projets qui puissent naître.
Comment la crise sanitaire a-t-elle transformé vos activités ?
Très bonne question. D'abord, on a réussi à s'adapter très vite et mettre en place nos cours en ligne quasiment du jour au lendemain. J'ai la chance d'avoir une très très bonne équipe d'enseignants avec à mes côtés. Et on a réussi en 48 heures à transformer nos cours présentiels en cours online. Donc ça, c'était plutôt positif. Sur les événements culturels, c'était un peu plus lent, mais c'est normal. On a d'abord annulé ou reporté, on va dire, un certain nombre d'événements culturels qu'on avait programmés, parce que les artistes ne pouvaient pas voyager, parce que le public ne pouvait pas se rendre dans les salles. Et donc, on a reprogrammé tout ça. On a commencé à créer des événements online. Je vous avouerai honnêtement que je ne suis pas hyper fan des événements online. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que de voir un concert en direct, de regarder une pièce de théâtre en direct, de rencontrer un auteur, de pouvoir échanger avec lui. Et donc, organiser tout ça via un écran interposé, ça m'a toujours un petit peu posé problème. Mais bon, voilà, on était dans une période où on n'avait pas trop le choix, où il fallait le faire. On l'a fait, on l'a bien fait. Aujourd'hui, j'aspire vraiment à ce qu'on revienne à une forme présentielle. On est content, ça a bien marché. En Espagne, on a pu continuer à fonctionner l'année dernière de manière à peu près continue, même si on a dû limiter le nombre de personnes dans notre salle de spectacle. On a été pendant longtemps à 50%. Aujourd'hui, on est revenu à 100%. Donc voilà, l'activité reprend. On essaye de pas oublier ce qu'on vient de traverser parce que ça a présenté un certain nombre d'avantages quand même, un certain nombre de progressions dans notre manière de fonctionner. On essaye quand même de revenir à quelque chose de plus physique, de plus concret, de plus présentiel.
Quels sont vos projets pour 2022 ?
On a plein de projets, on a toujours plein d'envies. Bon, d'abord, on voudrait terminer 2021 en célébrant dignement ce centenaire et vous dire que en décembre, on aura une super exposition autour du hip-hop et des arts urbains. Donc, on est très, très content de ça. Et puis, il y a des grands moments qui vont rythmer notre année en janvier. Alors, notre programmation sera beaucoup tournée vers l'Europe puisque, vous le savez peut-être, la France va prendre la présidence de l'Union européenne à partir du mois de janvier et jusqu'au mois de juin. Donc, on va beaucoup, beaucoup travailler autour de la question européenne et faire venir des artistes européens, faire en sorte qu'il y ait des échanges qui puissent se créer. On est très, très content de ça. On va avoir un mois de mars qui sera traditionnellement dédié à la francophonie et je pense qu'on va chanter en français dans les rues de Barcelone au mois de mars. Je vous en dis pas plus parce que, d'abord, c'est à l'état encore de projet. Et ça reste que d'être une grande et belle surprise. Et puis vous dire aussi qu'on va être partenaire du Teatro Nacional de Catalunya les 13 et 14 mars pour une pièce qui sera présentée en première mondiale en français. C'est pas très souvent qu'il y ait une pièce en français qui est présentée au Teatro Nacional de Catalunya. On sera partenaire de ce projet-là, une pièce qui s'appelle Ils nous ont oubliés. Et c'est une coproduction qui se réalise avec le Centre National d'Art Dramatique d'Orléans. Et donc on est très très content d'être partenaire de ça. Et puis il y aura toujours le festival Olala, le festival Oui, qui démarre je crois le 28 janvier, le festival Olala qui aura lieu au tout début du mois de mars, le festival Fire qui aura lieu au mois de juin. Donc tout ça, c'est bon, des festivals avec lesquels on est super content de collaborer. Puis il y aura des concerts, il y aura des expos, il y aura plein de choses encore. On est en train d'y travailler.
Finalement, qu'est-ce que la culture selon vous ?
Grande question. Qu'est-ce que la culture ? Si je devais vraiment résumer en deux ou trois phrases, je dirais que la culture, c'est ce qui sert, je crois, à créer des ponts entre les gens, entre les peuples. Vous avez, vous, en tant que jeune, votre culture, j'ai la mienne, mais je pense que l'échange culturel nous permet d'établir un pont transgénérationnel, donc entre vous et moi, même si on n'a pas beaucoup d'écart d'âge, hein, je suis encore très jeune. Mais blague à part, ce qui permet aussi d'établir des ponts entre les peuples. Entre la France et la Catalogne, entre la France et le reste du monde, il y a 112 instituts français dans le monde, il y a 830 alliances françaises dans le monde, et on a tous une action de coopération culturelle. Et c'est justement ça qui nous anime tous les jours, c'est d'établir des ponts entre les gens dans des temps où il y a un repli sur soi, où on a toujours la peur de l'autre ou la haine de l'autre. Je pense que la culture doit jouer un rôle très important, qu'on puisse améliorer et maintenir le vivre ensemble dans une société qui parfois en manque cruellement.
Merci.
Avec plaisir, à très bientôt.
Monsieur Éric Talon, conseiller culturel et directeur des Instituts français en Espagne, était ce jour-là en visite au lycée. Nous avons ainsi pu lui poser quelques questions.
Écoutons-le.
Bonjour à toutes les deux.
Quel est votre rôle au sein de l'Institut français ?
Je suis à la fois conseiller culturel de l'ambassade. Je m'occupe un petit peu de toutes les coopérations dans le domaine culturel, éducatif, universitaire, scientifique qui peuvent exister entre la France et l'Espagne. Et pour cela, on s'appuie sur l'Institut français, qui est un réseau de centres culturels. Il y en a 6 en Espagne, dont un institut français important à Barcelone. Donc je suis le directeur général de l'Institut français, donc un peu le chef d'orchestre de cet ensemble.
En quoi les instituts français sont-ils importants à l'étranger ?
Ils sont importants parce qu'ils permettent de présenter, on l'espère, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, un visage moderne et des coopérations les plus dynamiques de ce que fait notre modèle français, des différentes créations qui sont portées par les artistes, par les auteurs, par un certain nombre de penseurs, à des publics étrangers. C'est vraiment de créer des rencontres et de permettre l'échange. C'est ça notre objectif.
Pourquoi avez-vous choisi de représenter la France par l'intermédiaire de l'Institut français ?
Eh bien parce que je crois profondément à un échange qui se fait autour de la culture. Je pense que la construction européenne, notamment, est dans une étape importante aujourd'hui. On est un petit peu en train de repenser notre modèle, d'essayer de voir quelles seront les prochaines étapes. Je suis convaincu que vous n'aurez pas de continuité dans la construction européenne si vous ne permettez pas au peuple de se rencontrer, de se comprendre, d'échanger. Et ça repose d'abord sur la culture. Et j'en suis intimement convaincu. C'est pour ça que j'ai fait ce choix.
Et du coup, avez-vous un souvenir en particulier de votre carrière ?
Alors, de ma carrière, oui. J'ai pris mes fonctions ici en Espagne depuis 2 mois. J'ai auparavant occupé les mêmes fonctions à Rome, en Italie, entre 2012 et 2016. Et je crois qu'un des souvenirs les plus forts de ma carrière, ça a été au lendemain des attentats de Charlie Hebdo sur la place Farnèse, quand vous aviez des milliers de personnes qui sont venues défiler devant l'ambassade de France, et notamment pour dire leur attachement à la culture et aux valeurs qu'elle porte en Europe. Et c'était un souvenir évidemment très émouvant. Il y a eu des manifestations de ce type dans le monde entier. Il y en a eu beaucoup en Italie, devant le palais Farnèse, je le disais, également à Florence, devant le palais Lenzi, qui est le siège de l'Institut français Florence. Des souvenirs très forts.
Vous avez déjà un peu répondu à cette question, mais pour vous, pourquoi la culture est-elle importante dans notre société ?
Je pense qu'elle permet d'abord de mieux comprendre l'autre. Elle permet aussi de, quelque part, de mieux se comprendre soi-même, et en tout cas de réfléchir à soi-même, à son passé, à ce qu'on souhaite pour l'avenir, pour la société, et à ce qu'on souhaite faire ensemble. La culture, pour moi, c'est à la fois un ciment, mais également une réflexion, là où on veut aller, de manière très concrète. Pour compléter, la culture, vous avez différentes formes d'expression. Vous avez bien sûr des échanges entre des auteurs, vous avez une pièce que va présenter un chorégraphe avec une compagnie de danse, vous allez avoir un concert, et ce sont toutes ces facettes de la vie culturelle qui nous font aussi réfléchir et nous projeter de manière différente dans cette réflexion. Donc je pense que c'est ça qui est intéressant.
Quel est l'avenir de l'Institut français de Barcelone, sachant que certains vont fermer ou ont déjà fermé en Espagne ou à l'étranger ?
Alors, nous fêtons cette semaine les 100 ans de l'Institut français de Barcelone. C'est évidemment un anniversaire très important. Vous connaissez le siège, ce bâtiment magnifique de 8 étages où on a beaucoup d'activités différentes, et que ce soit dans la médiathèque, dans la galerie, dans la salle de spectacle, et évidemment beaucoup de cours à différents niveaux. C'est un institut qui fonctionne très bien, donc j'espère vraiment qu'il sera encore là dans 100 ans, mais j'ai pas tellement de doutes, parce qu'il occupe une place très importante dans la vie culturelle catalane, la vie culturelle espagnole. Il est très dynamique, avec une équipe qui a su donner une impulsion aux activités culturelles et éducatives et d'enseignement du français. Donc je suis sûr qu'il aura un avenir radieux, et je tiens à saluer d'ailleurs tout le travail qui est fait par son directeur Max Vasseur, qui fait un excellent travail.
Merci beaucoup.
Merci à vous et bonne continuation. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime.
C'était Jingle Bell Rock par Bobby Hames.
Cette année, nous avons l'honneur d'avoir deux profs recevant les Palmes académiques.
Madame Marco, prof de maths, et Madame Fernandez, prof de droit pour les STMG.
À cette occasion, nous avons demandé à notre proviseur, Monsieur Bastianelli, de nous expliquer ce que représente cette honorification.
Retrouvons-le.
Bonjour Monsieur Bastianelli. Pouvez-vous nous expliquer ce que sont les Palmes académiques ?
Alors bonjour et bienvenue pour cette émission, et je voudrais vous dire le plaisir que j'ai chaque fois que la web radio du lycée français vient me rencontrer, parce que je trouve que c'est vraiment sympathique et intéressant de pouvoir échanger. Oui, les Palmes académiques, c'est un ordre distinctif de la République française. C'est un ordre qui existe depuis le début du 19e siècle et par lequel la République française... Au début, d'ailleurs, c'était même pas la République française, c'était l'Empire français, puisque c'est Napoléon qui a créé cet ordre-là, Napoléon empereur, en 1808. distingue des personnels, des personnes qui ont œuvré, rendu service, qui se sont engagées dans leur métier et pour la France. Les palmes académiques, c'est donc une distinction qui est remise sur décret du Premier ministre et sur proposition du ministre de l'Éducation nationale. Et c'est une distinction qui est remise au personnel de l'Éducation nationale au sens large, c'est-à-dire pas seulement aux enseignants, ça peut être remis aussi à des administratifs, à des gens qui travaillent dans les établissements scolaires, voire même à l'étranger, dans un lycée français, ou à des personnalités qui ont contribué à aider et soutenir les activités et l'action et le rayonnement de l'Éducation nationale française. Voilà, alors les palmes académiques, comme tous les ordres, on remet des insignes. Celui qui reçoit le titre va pouvoir porter. Pour les palmes académiques, les insignes, c'est à l'origine une couronne de laurier et d'olivier, pour symboliser les lauriers, bien sûr, hein, la réussite notamment universitaire, académique, et puis le laurier comme symbole de paix. Aujourd'hui, les olives ont disparu du symbole, hein, et donc on a une sorte de couronne de laurier, et puis un ruban violet. Ça, c'est l'insigne. Et donc, on le remet, en général, dans la sphère éducation nationale, à différents personnels. Et puis, on va expliquer, par exemple, aujourd'hui, pourquoi on les remet à des personnels du lycée.
Nous avons appris que Mme Fernandez et Mme Marco reçoivent ce soir les palmes académiques. En quel honneur ?
Alors, je suis content de pouvoir, là, à la radio, dire un mot pour les féliciter, en avant-première, puisque ça sera ce soir, pour pouvoir les féliciter et pour dire combien je trouve important que notre ministre valorise et distingue des professeurs. Parce que finalement, chaque professeur, pas seulement en France, mais aussi dans les lycées français à l'étranger, font un métier qui est absolument remarquable, avec un grand engagement. Et c'est ça, en fait, et en particulier, qu'on va souligner ce soir quand on va remettre cette distinction aux deux professeurs en question. Et on va rappeler dans leur carrière toutes les étapes de leur engagement. Et c'est l'occasion de le dire parce que tout le monde ne connaît pas tout ce qu'elles ont fait, chacune comme parcours, comme implication particulière. C'est l'occasion de le dire et de le mettre en valeur. C'est ça le sens de cette distinction.
Avez-vous déjà reçu les palmes académiques ?
Oui, j'ai reçu les palmes académiques. Quand on a été décoré par une distinction, il y a deux façons de porter la distinction. Il y a une façon très officielle qui est une vraie médaille qu'on suspend au bout d'un ruban, mais que, bien évidemment, on ne peut pas porter au quotidien parce que ça serait à la limite dangereux. Et puis, il y a la façon quotidienne qui marque qu'on a été distingué et qui est un tout petit signe et qu'on reconnaît à sa couleur. Et la couleur des palmes académiques, c'est la couleur violette, et c'est là que vous auriez effectivement pu voir que ça correspond aux palmes académiques.
Merci beaucoup, monsieur le proviseur, pour avoir consacré votre temps, et au revoir. Merci.
Avec plaisir, au revoir.
Lors de cette soirée, madame Marco et madame Fernandez se sont exprimées à notre micro de ce journal. Les voici.
Bonjour Florence.
Bonjour.
On aimerait savoir à la radio comment vous vous sentez après avoir reçu cette distinction.
Fière, honorée, heureuse, évidemment.
Est-ce que vous pensiez, quand vous avez commencé à être prof, vous arriveriez jusque-là ?
Pas du tout, parce que je ne savais pas. D'abord, moi, je suis rentrée dans un statut qui n'était pas du tout un statut de fonctionnaire et je n'y connaissais rien. Je ne viens pas du tout d'un milieu de professeur et donc j'ai découvert ça petit à petit. Et je regrette une chose, c'est de ne pas avoir découvert plus tôt que je pouvais partir à l'étranger.
Que diriez-vous aux jeunes profs là, qui arrivent là ?
Qu'il faut aimer ce qu'on fait. Et si on n'aime pas, il vaut mieux changer de voie. Parce que sinon, c'est trop dur. Je pense que ça peut être trop dur. J'ai vu des gens pas épanouis, alors que c'est un métier qui peut apporter beaucoup si on aime ce qu'on fait.
Merci Florence.
Merci beaucoup.
Bonjour Carmen.
Bonjour.
Nous aimerions savoir comment vous vous sentez après avoir reçu cette distinction.
Ça me paraît un peu irréaliste, mais voilà, je suis là ce soir et franchement, ça fait plaisir.
Et est-ce que vous pensiez, en commençant à être prof, que vous allez arriver ici ?
Je ne savais même pas que ça existait au début, donc non, donc c'est un grand plaisir.
Qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes profs ?
Soyez vous-même, soyez investis dans votre mission, dans votre plaisir d'enseigner, et puis voilà, que ça continue.
outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Doesn't care if it's 10 below. Sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, goes the storm. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
C'était Frank Sinatra et son hit Let It Snow.
Cette année, certains élèves de première ont eu l'opportunité de participer à la 4e conférence des modélisations des Nations Unies à Palma.
Les élèves devaient partir en voyage à Palma de Mallorca, mais en raison du Covid, la conférence a eu lieu en virtuel depuis l'étage de CDI.
Moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à cette conférence.
Les élèves représentaient soit l'Inde, soit un petit pays des Caraïbes, Saint-Vincent et les Grenadines.
Nous avons interviewé certains élèves participant à cette conférence.
Aina Fuentes, Emma Sibou, Emilia Stoyanova et Chloé Gilopé.
Écoutons-les tout de suite.
Bonjour, quel pays et quelle commission présentes-tu ?
Bonjour, je représente l'Inde dans la commission d'agriculture, alimentation et développement.
Pourquoi as-tu choisi de participer au Palmoon ?
J'ai décidé de participer au Palmoon parce que j'avais fait un Moon déjà en 6e et j'avais beaucoup aimé, et donc je me suis dit que étant en première et ayant plus de ressources et tout, ça serait encore mieux, donc j'ai voulu réessayer pour voir ce que c'était.
Pour toi, quelle valeur représente le Palmoon ?
C'est super important parce que on a l'opportunité de se rassembler avec des élèves d'autres lycées. On a l'opportunité aussi de débattre avec eux dans une façon très respectueuse et on utilise du vocabulaire assez formel. Et aussi, on doit faire des recherches pour pouvoir débattre sur un thème très précis et très pressant dans le monde actuel. Ce qui est très intéressant parce qu'il nous donne un point de vue plus global. Et on commence à s'intéresser sur des projets qui nous affecteront ou qui nous affectent maintenant.
Quel pays et quelle commission représentes-tu ?
Je représente Saint-Vincent et les Grenadines dans la comité de l'alimentation, l'agriculture et le développement durable.
Pourquoi as-tu choisi de participer au Palmoon ?
J'ai décidé de participer au Palmoon car c'est un très bon exercice de débat public et de débat politique surtout, et c'est très intéressant d'avoir le point de vue de chaque personne. C'est un challenge parce que quand on représente un petit pays comme Saint-Vincent les Grenadines, il faut trouver des solutions innovantes et originales pour montrer ton point de vue aux autres.
Pour toi, quelle valeur représente le Palmoon ?
Pour moi, le Palmoon représente la solidarité entre pays, mais aussi surtout l'égalité, le respect aussi, parce que c'est très important d'avoir un open-mindedness, comme on dit en anglais, et c'est très intéressant de pouvoir écouter le point de vue de chaque pays.
Bonjour, quel pays et quelle commission représentes-tu ?
Je représente Saint-Vincent et les Grenadines, une île aux Caraïbes, et je fais partie de la commission de droits d'homme.
Pourquoi as-tu choisi de participer au Palmoon ?
Moi, personnellement, je me suis toujours vue comme diplomate. Du coup, ça a toujours été un rêve de travailler à l'ONU ou autre organisation. Le Palmoon, je trouve, c'est une bonne expérience pour voir si c'est vraiment quelque chose que j'aime et que j'aimerais faire plus tard.
Pour toi, quelle valeur représente le Palmoon ?
Le Palmoon, c'est vraiment un exercice où tout le monde doit s'écouter, tout le monde doit apprendre à se respecter, à respecter les avis des autres, même si parfois on n'est pas d'accord. Un exercice d'argumentation où tu apprends à mieux expliquer ton avis. Je trouve que c'est vraiment un bon exercice pour aussi l'oratoire, apprendre à bien parler.
Quel pays et quelle commission représentes-tu ?
Alors, je représente Saint-Vincent et les Grenadines, une petite île des Caraïbes, et je représente la commission d'ECOSOC, donc économie et sociologie.
Pourquoi as-tu choisi de participer au Palmoon ?
Mais en fait, ça m'intéresse beaucoup les débats publics et c'est un peu dommage qu'ils fassent beaucoup moins ça ici en France. Et donc ça me manquait un peu et j'ai réalisé que ça serait une opportunité parfaite pour pouvoir faire ça. J'avais beaucoup aimé l'aspect de la politique parce que avec les spécialités que j'ai choisies, j'en fais pas. Et donc j'avais voulu essayer de faire ça aussi.
Pour toi, quelle valeur représente le Palmoun ?
Le Palmoun, ça représente des valeurs de respect et d'écoute, parce qu'il y a beaucoup d'écoute. Il faut vraiment écouter ce que les gens y disent et comprendre. C'est aussi une valeur éducative, parce qu'on parle beaucoup des problèmes assez contemporains. Donc c'est intéressant de voir les points de vue de tous les pays dessus. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas souvent en train d'argumenter pour soi-même. Donc on apprend à voir tous les côtés d'un problème et je trouve que c'est très important dans la vie.
Place au meilleur moment de l'année.
Noël !
Nous avons préparé un petit segment spécial Noël.
Chaque année, nous attendons avec impatience.
En ce moment de l'année, vous pourrez ouvrir votre calendrier.
Regarder des films de Noël tout en buvant du chocolat chaud.
Et écouter des musiques de Noël.
Nous avons questionné quelques élèves sur cette merveilleuse période.
Écoutons-les !
Bonjour, que représente Noël pour toi ?
J'aime pas trop Noël parce que je ne vois pas ma famille. Et voilà. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des cadeaux, tout le reste, j'aime pas.
Qui vois-tu et où vas-tu à Noël ?
Je vais partir en France et je vais voir ma famille.
Quelle chanson de Noël tu nous recommandes ?
Rockin' Around Christmas Tree.
Noël, c'est un temps de vacances, de festivités. Donc en fait, c'est un temps pour repos pour les élèves et pour les profs aussi. C'est aussi un temps où on se met ensemble avec la famille, où on fête un moment spécial. Et on est tous contents, voilà.
Qui vois-tu à Noël et où vas-tu ?
Alors, je vois ma famille, donc ça dépend si on a le temps ou pas de les voir. Donc après, on va les visiter et je vais ou au Pays Basque ou en Suisse.
Quelle chanson de Noël nous recommandes-tu ?
Je recommande la chanson « Mary, did you know » par Pentatonix.
Pour toi, que représente Noël ?
Pour moi, ça représente l'hiver, le froid, les calendriers, la pluie, les chocolats chauds chez Starbucks, la famille, les cadeaux de Noël, enfin tout ce qu'on mange à Noël. Enfin, c'est ma saison préférée, donc ça représente tout pour moi.
Qui vois-tu à Noël et où vas-tu ?
Je vais voir ma famille à Lyon.
Et voilà.
Quelle chanson de Noël recommandes-tu ?
Je recommande Let It Snow de Frank Sinatra.
Bonjour, que représente Noël pour toi ? Pour moi, Noël, c'est un temps de cadeaux, de partage. Et j'aime beaucoup l'esprit de Noël qui est très heureux. Et donc, les gens, ils s'aiment beaucoup et ça se voit quand ils donnent des cadeaux. Puis j'aime bien le froid, la neige, le ski, les sports d'hiver, c'est génial.
Qui vois-tu et où vas-tu à Noël ?
Je vais voir toute ma famille un peu, vraiment. Je vais voir mes grands-parents et je vais aller dans un chalet à côté de Font-Romeu.
Quelle chanson de Noël nous recommandes-tu ?
Moi, je recommande Jingle Bells de Frank Sinatra ou Jingle Bell Rock de je sais plus comment il s'appelle.
Eh bien, ça représente pas grand-chose en fait, parce que je ne le célèbre pas. Cette année, exceptionnellement, je vais aller voir ma maman et ma sœur et mes nièces en Charente, en France. Quelle chanson de Noël nous recommandes-tu ? Alors moi j'adore Frank Sinatra.
C'est malheureusement la fin de cette édition de The Journal.
On se retrouve dans un mois pour une nouvelle émission.
D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser des commentaires sur
www.radiolfb.net.
À l'année prochaine et joyeux Noël. On se quitte avec Rockin' Around the Christmas Tree de Brenda Lee. Ciao tout le monde.
Peace. When you
of holly rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday.